Bon, avec votre permission, on va lancer ce petit point d'information. Alors, un peu improvisé, nous avons, comme chaque année, la chance de recevoir le réseau d'initiatives climat dirigé par Benoît Théo et son réseau africain. Et en fait, les modifications liées à l'agenda de la COP25 qui est passé du Chili à Madrid en quelques semaines nous a amené à annuler une manifestation que nous avions prévue le 16 novembre et que vous retrouvez dans notre programme, et puis de vous proposer ce petit temps de présentation du projet tel qu'il a été remodelé vraiment très très rapidement en 3 semaines pour passer du Chili à l'Espagne. Mais comme vous le voyez sur le logo, c'est toujours la COP25 du Chili. Alors ça, c'est comme le Paris-Dakar qui a lieu en Amérique du Sud. Hein, ça s'appelle toujours le Paris-Dakar. C'est une marque. Donc voilà, il faut comprendre que cette manifestation qui est le rendez-vous absolument indispensable des discussions autour du climat s'inscrit dans une problématique qui est forte pour cette maison. Alors, je voulais vous faire les choses en 2 temps. D'abord, vous redire 2-3 mots sur l'espace Mendès France et le climat, puisque nous travaillons depuis longtemps sur cette thématique. Et puis ensuite, passer la parole à Alfredo Penavega, avec qui nous œuvrons depuis déjà une bonne quinzaine d'années autour de ces questions, et avec qui nous avons, en son temps, vous vous en rappelez sûrement, monté ces superbes universités internationales d'été, qui, entre 2007 et 2014, entre Saint-Jean-d'Angély, Poitiers, Niort, Dijon, Palma de Tocantins, Santiago du Chili, Paris, etc., a tramé un énorme réseau de chercheurs et qui permet à l'espace Mendès France de se nourrir d'informations importantes sur la question de la recherche au service du climat, de l'environnement, etc. Alors, pour l'espace Mendès France, la question du climat, c'est une question traitée ici. Donc, on a retrouvé notre première exposition sur le climat, 1994. Donc, avec dans cette salle le regretté Gérard Mégy, qui à l'époque était président du CNRS, qui est malheureusement décédé depuis, et qui avait fait un papier qui avait fait grand bruit dans le monde sur la question du trou dans l'ozone, mais également du réchauffement climatique. Papier qui avait fait du bruit. Nous avions fait une conférence dans cette salle qui avait été houleuse parce qu'il dénonçait déjà à l'époque les conditions de production qui amenaient à un système de consommation néfaste, on va dire ça rapidement, pour la planète. Donc on voit qu'entre 1994 et maintenant, les choses ont beaucoup changé puis sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin ou on a envie que ça avance. Alors, pour nous, Espace Mendès France, la COP a commencé avec la COP21, Paris. Historiquement, nous avions à l'époque produit une première exposition toujours basée sur la place de la recherche dans la compréhension du phénomène climatique et plus généralement des problèmes d'environnement, en mobilisant la recherche régionale et en essayant d'élargir tout ça à un réseau international grâce à Alfredo et les réseaux d'Edgar Morin. Donc petit à petit, cette maison a réussi à nourrir un ensemble d'informations, toute une base de données qui fait que non seulement nous suivons cette question du climat du point de vue des scientifiques, mais également nous arrivons de plus en plus à suivre ce qui se fait à la fois dans les réseaux, mais également dans un certain nombre de sphères de production, alors culturelle, éducative, mais également dans des relations avec les entreprises privées qui commencent à s'intéresser au sujet. Donc, si je voulais dire ça, simplement, c'est que ce n'est pas un effet de mode pour nous. La COP21 a été suivie de la COP22 Marrakech, ensuite Bonn, ensuite Katowice, qui n'était pas forcément une réussite. Et année après année, nous avons essayé d'actualiser les données. Alors les données de Biosphère 2030, je vais expliquer pourquoi Biosphère 2030, les données sont un travail sur une dizaine d'années de compilation d'informations, mais aussi d'actualisation. Parce que finalement, on se rend compte qu'en un espace de temps très court, parler du climat et de la place de la recherche dans cette question climatique est une condition nécessaire, mais largement insuffisante pour présenter à nos concitoyens les voies et les moyens pour intervenir là-dessus. Et un des slogans de cette COP, c'est passer à l'action, puisque tel est ce à quoi nous sommes invités dans les temps à venir. Donc, l'exposition Biosphère 2030, nous avons fait une reprise des attendus de la COP 21, 2 degrés d'augmentation maximum. Et puis, tout ça se fait à l'heure ou à l'ère du numérique. Alors, le 3.0, le 4G, on l'appelle comme on veut. Et puis finalement, Biosphère 2030 nous a permis, à travers l'exposition qui est présentée ici, mais également à la mairie, au conseil régional, à l'ENSI Poitiers, grâce à Jean-Yves Chenbeau, nous avons petit à petit aussi rajouté un certain nombre de choses qui montrent comment on passe à l'acte, en rappelant ce que le conseil régional Nouvelle-Aquitaine avait lancé suite à l'étude de Hervé Le Treut, qui était dans cette salle voici encore 2 ans, sur ce qui est éminent pour nous, c'est-à-dire le littoral, et les enjeux et les défis qu'il y a liés à tout ça. Et puis aussi, et je l'excuse parce qu'il ne peut pas être là ce soir, le président de la démarche de la Grande Muraille Verte, hein, qui est ce projet de l'OUA destiné à créer les conditions d'une reforestation du Sud-Sahel. Donc on se retrouve avec le projet du Chili, dont le thème, et je vais y arriver, était « Les jeunes et le climat ». La Grande Muraille Verte qui sera présentée à Madrid et que vous retrouvez dans notre exposition. Et puis, globalement, génériquement, le projet Acclimatera et Ecobiose que finance et promeut le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Donc nous irons présenter la façon dont l'Espace Mendès France mène ses actions de diffusion de la culture scientifique. Alors Alfredo le redira, parce que maintenant, toutes les heures, il a des... Il a des messages, puisque les panneaux d'expo commencent à voyager dans le monde entier. Donc, on a eu des messages d'Allemagne, d'Amérique du Sud, du Québec, enfin bref. Parce que ce qui nous paraît surprenant, c'est que les gens soient surpris qu'une maison comme celle-là fasse ce type d'expo. Sauf que le constat c'est qu'à un moment où tout le monde alerte, il n'y a aucun outil pédagogique, didactique et de diffusion de culture scientifique au niveau international, ça me surprend, mais il en est ainsi. C'était déjà vrai pour la COP 21. Notre expo avait été traduite en anglais, avait été présentée en Malaisie, enfin bref. Et c'est là où on se dit, au-delà des discours, il y a quand même une carence sur les outils essentiels que sont ces outils d'information, de compréhension et surtout de débat, ce que nous faisons régulièrement. Voilà, donc Biosphère 2030, c'est à la fois une façon de relier la question du climat à un problème plus général qui est celui de l'activité humaine dans ses rapports à la planète. Deuxièmement, c'est de se projeter dans l'avenir. Et si on parle de 2030, c'est 2.0 et 3.0, parce que tout simplement, quand nous serons à Madrid la semaine prochaine avec les 160 ou 180 jeunes qui vont venir travailler, au-delà du manifeste qu'ils entendent écrire, moi j'ai proposé qu'à travers ce titre, on leur donne rendez-vous en 2030, à travers une méthode que Alfredo va expliquer, qui serait la création, l'écriture d'une matrice permettant de suivre les problèmes climatiques et environnementaux sur un certain nombre de critères que nous retrouvons dans le clip de présentation où les critères scientifiques sont hyper importants pour faire un suivi objectif de tout ça. Mais il y a des dimensions autres qui sont liées à la destinée humaine, la vie démocratique, son avancement ou sa régression, puisqu'on est sur une période d'interrogation, la question de l'éducation, la question de la culture, la question de la violence. Bref, tous ces critères qui devraient, à travers cette communauté de jeunes, pouvoir être suivi, et le manifeste de Madrid qui sera présenté à la secrétaire générale de l'environnement de l'ONU le vendredi matin 13 devrait reprendre ses attendus. Alors on attend, alors je remercie les lycéennes qui sont ici, on attend aussi de la jeune génération qu'elle relaye de manière virale, dit-on maintenant, ces informations pour à la fois porter à connaissance, mais surtout créer du débat pour passer à l'acte. Donc dans 10 ans, vous aurez 10 ans de plus. Alors, nous aussi d'ailleurs, Mendès France, en ce moment, pendant 15 jours, porte dans 70 lieux différents des débats à travers des projections de films. Alors, moi, je viens d'en faire 3, 2 lycées et 1 collège. Je vois à quel point la parole des jeunes par rapport à ça a de l'importance. Et les historiens sont en train de nous raconter que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le monde des adultes, des parents, est aussi démuni par rapport à un questionnement. Donc ça nous amène à poser la question de la mobilisation et des solidarités. Voilà, donc la démarche, c'est que cette exposition qui a été tirée à 14 ou 15 exemplaires, ben alors Alfredo, à 14 ou 15 exemplaires, sera dans une douzaine de lieux en Nouvelle-Aquitaine, mais également donc à Madrid et à Valence. Puis je voulais remercier Sciences Po, Pascal Leclerc, ici présente, d'avoir permis de trouver une étudiante qui nous a, de manière extrêmement brillante, non seulement traduit, mais également trouver les mots pour expliquer la syntaxe, pour mettre ça en contexte. Donc, typiquement, des collaborations comme on aime en faire. Donc, on se retrouve effectivement avec les sciences dites dures, exactes, etc., qui côtoient aussi le mode de présentation qui est devenu éminent et absolument, absolument essentiel. Alors, pour l'anecdote, il y a un exemplaire qui tourne chez Monsieur Trump en ce moment. Donc c'est juste pour le clin d'œil, parce que voilà, c'est à travers nos amis de Louisiane. Donc merci à celles et ceux qui ont participé. Merci à Hervé Letreut, qui n'a pas pu être là ce soir, d'avoir accepté de relire les panneaux. Énorme travail. De regarder si nos iconographies étaient cohérentes ou pas. Et puis, nous, Mendès France, on entend modestement faire un service après-vente, comme on dit ailleurs, de tout ça et de regarder comment le manifeste de Madrid peut vivre sur notre territoire, ici à Poitiers, dans son territoire de référence, avec nos collègues et amis du rectorat, nos universitaires. Les étudiants de l'ENSI Poitiers ont déjà engagé des choses, et de voir comment, petit à petit, on monte des réseaux qui vivent leur vie à partir de ces données. Et encore une fois, la règle, la chaîne de valeur pour nous, c'est bien de faire vivre ce qui se passe dans les labos, tout en écoutant ce qui se passe au niveau de la vie culturelle, sociale, et donc de faire vivre l'être rationnel que nous essayons d'être en permanence avec l'être sensible, avec ses peurs, ses inconnus, ses incertitudes. Donc on fait vivre aussi à travers tout ça la question de l'incertitude et d'une culture de l'incertitude. Voilà. Donc, la semaine prochaine, nous serons en délégation à Madrid avec Gilles Bouetsch, le président de la Grande Muraille Verte, Jean-Yves Chenot, ici présent, mais également Catherine Colombo, qui est ici, qui va nous faire le suivi réseaux sociaux, parce que c'est absolument important. Et puis, on espère que les étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes, et les lycéennes qui sont là, relayeront ces informations et puis permettront à d'autres de s'intéresser au thème. Voilà, donc cette démarche est une première pour nous, sous cette forme-là, hein, puisque les autres présentations sur la COP étaient un tout petit peu plus institutionnelles. Elle nous paraît aller dans le sens de ce qu'il faut faire. Et on remerciera le lycée français de Madrid, et puis tout à l'heure, la proviseure de Camille Guérin va nous rejoindre, elle est en conseil de classe. Voilà, donc je vais donner la parole à Alfredo, qui va nous donner quelques éléments d'information, le programme, puis après, si on veut échanger, ce sera avec plaisir. Alfredo.
Bien, merci Didier, et bonsoir à tout le monde. Et en effet, c'est un grand plaisir pour nous, notre programme, de pouvoir partager cette expérience qui d'abord été conçu pour le Chili et qu'on se retrouve maintenant à Madrid. Et j'avoue que ce fut très laborieux. Après avoir travaillé pendant 9 mois pour monter une série des activités à Santiago du Chili en partenariat avec différentes institutions, et tout d'un coup, on se retrouve à repenser quelque chose qu'on avait pensé pour un lieu particulier. On se retrouve à repenser tout ça et à faire en sorte qu'on puisse le dédélocaliser, puisqu'il fallait tout délocaliser. Et donc, il faut dire que grâce à l'ambassade de France, que nous avons pu réussir à faire ce montage en 20 jours. Puis, mobiliser tous nos partenaires, et notamment tous nos amis scientifiques qui ont accepté de se déplacer jusqu'à Madrid et pour participer à nos activités. Et donc c'est une aventure et je ne sais pas du tout comment ça va se passer à Madrid. Mais on a quand même une logistique importante sur place, donc j'ai fait confiance à nos partenaires locaux. Et puis, il y a également déjà un savoir-faire que nous utilisons souvent quand on fait ce type d'activité. Un savoir-faire dans la manière de mobiliser nos collègues et nos partenaires, nos amis scientifiques, et puis les jeunes, puisque ça, c'est pour les jeunes. C'est une activité avec des jeunes. Donc, il faut aussi essayer de les motiver, de voir avec leur lycée, avec le proviseur, avec le prof. Donc, il y a un énorme travail en amont pour pouvoir que ces jeunes puissent se déplacer. Donc, vous pouvez imaginer qu'en 20 jours, c'était extrêmement difficile. Et on a réussi, parce que le projet, c'est un projet qui a déjà un certain temps, donc il est connu. Les personnes qui travaillent autour de ce projet savent quel est l'objectif, ils savent que c'est quelque chose de sérieux. Et donc, on a réussi à mobiliser pendant 20 jours une dizaine, peut-être 12 pays qui vont se déplacer jusqu'à Madrid. Donc, vous pouvez imaginer. Changer des billets, d'aller à Santiago, revenir à Madrid, c'est pas quelque chose de très facile. Et puis surtout, l'empreinte carbone est aussi importante. Mais on ne peut pas faire autrement, on n'a pas la chance d'avoir des bateaux pour traverser l'Atlantique. Donc, on le fait à l'avion. Et donc, voilà que nous sommes à Madrid, dans un projet que donne la possibilité pour que les jeunes puissent participer et amener leur point de vue, leur projet, et essayer de se projeter pour les 5 prochaines années. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une alliance. Cette fois-ci, c'est une alliance avec une démarche scientifique et avec l'Espace Médé de France pour essayer de faire un lien entre ce que nous préconisons dans notre projet et intégrer en quelque sorte ce que vous voyez ici, la vie offerte 2030. Et comment on va réaliser ça? C'est un défi parce qu'il va falloir essayer de voir quels sont les ponts que nous allons bâtir pour arriver à se projeter jusqu'en 2030, en sachant que notre projet se focalise principalement dans des jeunes qui ont 15-18 ans. Donc, disons, c'est les 3-4 dernières années de lycée. Donc là, il va falloir se projeter au-delà. Et nous avons de la chance que beaucoup de jeunes qui ont participé au début à notre projet, 2014, aujourd'hui, ils ont 20 ans, 21 ans, et qu'ils continuent à travailler avec nous. Donc, on va essayer de faire une sorte de lien entre les anciens et les nouveaux, quelque sorte. Donc c'est là que
il va falloir faire cette sorte de symbiose entre les générations. Et je vais vous présenter rapidement un visuel du projet. Et ce visuel, en deux minutes, va synthétiser notre projet.
You might think extinction, pollution, floods, droughts, wildfires, heat waves, misery, the scarcity of water and food. But do you think about the future? Democracy? Humanity? Societies? Well, this is all connected. And it's our mission to raise awareness and mobilize the present and future generations, young people, because change is possible. Global Youth Climate Pact, 27 countries, 141 educational establishments, 5,058 participating students, 219 projects. You can make a difference. Help us keep growing and contribute to our project.
Voilà, donc vous avez vu, c'est depuis 5 ans, nous avons 28 pays et peut-être 30 et plus de 5000 jeunes qui participent de manière constante et à peu près 200 établissements dans l'ensemble et 180 projets que les jeunes, avec l'aide de leurs enseignants et la participation des scientifiques, élaborent pour les mettre en place dans leur territoire. La originalité de ce projet, c'est un lien entre le scientifique, le jeune et le professeur. Et c'est un projet qui s'adresse à des jeunes de 15-18 ans. Dans les pays africains, on va un tout petit peu au-delà, 21-22 ans, parce que l'éducation est plus tardive. En gros, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer dans les COP, disons, les projets qui sont élaborés par ces jeunes et montrer que ces projets, ce ne sont pas des projets qui restent à l'intérieur du lycée. Ce sont les projets qui sont mis en place dans leur communauté et dans leur territoire. Et les projets ont une très grande variété. Ça va de l'agriculture familiale jusqu'à la recherche sur l'acidité des océans, en passant par l'empreinte carbone et une série de projets de réforestation pour les pays africains, etc., etc. Donc il y a une variété de projets, puisque ceci s'est fait dans une très grande interdisciplinarité. Les chercheurs qui participent à notre projet sont de toutes les disciplines. Ça va du climatologue jusqu'au philosophe, en passant par les géographes, l'économiste, le sociologue, l'ethnologue, l'anthropologue. Donc nous faisons appel à toutes les disciplines. Et l'idée, disons que le fil conducteur, ce n'est pas de faire des jeunes des spécialistes du changement climatique. C'est de les faire penser sur les choses que vous avez vues. Faire penser à travers cette problématique du climat, de les faire penser sur la question de la démocratie, de les faire penser sur la question du futur, et de les faire penser sur la relation qui est très importante aujourd'hui, la relation générationnelle, les jeunes et les adultes. Et il faut absolument que ça, on puisse l'observer et on puisse travailler sur ces questions. Nous sommes persuadés, pour avoir observé ça depuis 5 ans, de très près, que sans une alliance entre les générations, c'est pas possible. C'est pas possible. Et les jeunes ont besoin des plus anciens et vice-versa. les plus anciens ont besoin de jeunes. Et ce problème de changement climatique et ses effets multiples, est une nécessité d'une alliance entre les générations. Une nécessité. Donc, dans cette optique, nous allons, pendant deux jours et demi, nous allons discuter sur ces questions-là. Donc, je vais vous montrer à peu près le programme. Donc, ce programme, c'est deux jours et demi, avec bien sûr le classique, les autorités. Et donc, ça, c'est pas beaucoup, c'est pas très important, mais bon, il y aura les autorités. La ministre de l'Environnement du Chili, qui est la présidente de la conférence, le Chili a la conférence, et là, le Chili a la présidence de la conférence pendant un an. Donc, elle viendra pour l'ouverture. La ministre de l'Environnement de l'Espagne également, et l'ambassadeur de France à Madrid, et nous représentons des jeunes. Donc, ça, c'est les gens qui pointent. Et nous allons avoir peut-être Greta. Mais ça, ce n'est pas du tout quelque chose que nous tenons énormément. Si elle vient, vient. Et c'est prévu qu'elle vienne. Si elle ne vient pas, elle ne vient pas. Nous, on n'est pas sûr ça. On n'est pas sûr. C'est important parce que les jeunes, ils veulent la voir. Donc, il y a beaucoup d'expectatives là-dessus. Mais disons que nous, on veut pas, on n'est pas sûr ça. Quoi. C'est important, mais bon. Alors, ça se passe dans notre conception de notre projet, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est des dialogues. Hein, des dialogues. Hein. Des dialogues entre, toujours, entre le scientifique, le politique, et puis également, c'est important, entre ceux qui sont des vrais passeurs de la culture scientifique. Par exemple, pour nous, la présence de l'espace Maine de France, depuis toujours, ça a été important, très important. On apprend beaucoup et des choses qui s'est fait ici dans la région parce que c'est très important pour nous de savoir comment on peut aussi être présent sur le territoire. Donc, première partie, premier bloc, c'est des conversations, dialogue intergénérationnel sous l'action du climat avec la première députée indienne du Brésil, de l'Amazonie, M. Letrut, qui soutient beaucoup ces projets, la présidente de l'Union interaméricaine du Parlement, c'est important que le politique s'empare de cela, et une jeune représentante du projet, un scientifique et une deuxième jeune représentante du Maroc, une représentante du Maroc et une représentante de l'Espagne. Donc ça se passe, c'est des dialogues autour d'un thème, rien n'est préparé, il n'y a pas de questions préparées à l'avance, tout ça joue dans la spontanéité et dans la façon dont les jeunes s'expriment et échange avec les jeunes. Puis on a un deuxième bloc, le même jour, le matin, ça c'est le mercredi, un deuxième bloc, avec une deuxième conversation, promouvoir le dialogue intergénérationnel sur le changement climatique. Et là, nous avons l'ancienne ministre de l'Environnement du Brésil, qui est quelqu'un qui, depuis très, 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 très longtemps, joue un rôle très important dans la question de l'environnement au Brésil, notamment sur la question de l'Amazonie. Un jeune de notre projet, un politique, M. Larotourou, puis un deuxième jeune et un deuxième représentant de notre projet. Donc, vous voyez, c'est toujours la place dans les discussions des jeunes très importante. Donc, deuxième discussion. Et ensuite, nous avons la partie sur les questions. On va essayer de faire un contact par visioconférence avec ces trois jeunes filles, qui sont les jeunes filles qui ont été à l'origine en Belgique du vendredi, hein, et qui allaient au Chili, et que maintenant ils font marche arrière, parce qu'ils reviennent, ils sont dans un bateau, pareil que Greta. Et donc, Elles étaient la semaine dernière du côté brésilien, mais la semaine prochaine, elles vont être du côté de la Martinique. Et on va faire une connexion par visioconférence pour discuter sur un sujet que je tiens beaucoup à cœur, c'est de pouvoir pérenniser des COP, des jeunes pour le climat, mais au niveau institutionnel. Donc ça, c'est prévu pour le jeudi entre 11h45 et midi. Ah bon? Oh. La suite, l'autre côté. Non. Et ça, c'est quoi? Ah, tu as mangé?
J'ai mangé une partie du programme.
Oh, là. Bon. La deuxième partie, c'est très facile. Et c'est là que ça se passe, en fait. La première partie, c'est on s'est nourri de ces discussions. Les jeunes participent, prennent la parole, s'expriment. Mais le plus important, c'est à l'après-midi, puisque c'est là qu'il y a les ateliers de travail, où nous avons à peu près 5 ateliers élaborés en fonction de notre résultat depuis 5 ans, les thèmes qui sont les thèmes les plus, disons, pas les plus importants, mais c'est là où il y a beaucoup de résultats. Donc nous avons 5 thèmes, un thème qui tourne autour en général de l'éducation et l'environnement, le changement climatique. Un deuxième thème qui tourne autour de la question de la forêt, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui travaillent sur ces questions, et aussi des pays comme la Colombie qui travaillent sur la question de la réforestation de l'Amazonie. Un troisième thème autour de la biodiversité. Un quatrième thème autour de l'agriculture. Et un cinquième thème autour de l'océan, des océans, sur la question de l'océan. Donc nous avons 5 thèmes, et dans ces 5 thèmes, les jeunes viennent s'inscrire, participent. Donc, on aura à peu près, Didier a évoqué tout à l'heure, à peu près 180 jeunes. Nous aurons à peu près dans les 400 à 600 jeunes, puisque seulement des jeunes qui viennent inviter, nous avons à peu près une centaine. Et après, il y a les lycées qui sont en Espagne, à Madrid, qui vont participer, et des autres lycées, plus le lycée français à Madrid, dont sont à peu près 4500 jeunes. Donc, on ne va pas avoir les 4500, mais on a un espace pour à peu près entre 500 et 600 jeunes. Et ces jeunes vont participer après dans les ateliers. Chaque atelier, avec une thématique, est introduit par un scientifique. Et donc, l'espace humain de France, il y a, je crois, 2 thèmes dont ils vont être pas les animateurs, mais ceux qui vont faire l'introduction de l'atelier. Donc, et ensuite, il y a une introduction par un scientifique et les jeunes vont travailler à l'élaboration de leurs propositions et leurs projets. Le jeudi, c'est le même système. Donc, la même démarche, à savoir le matin, la conversation, des conversations donc, importantes sur l'action. Et le matin, nous allons faire un crowdsourcing, c'est une consultation citoyenne par Internet, en français. Donc, tous connectés, ça s'appelle le titre, tous connectés. J'ai piqué le titre d'une conférence d'ici, d'une exposition à l'Espace Humain de France. Et donc, tous les jeunes qui veulent se connecter, il suffit d'aller sur une plateforme où nous avons donné après l'information. Je peux vous envoyer, si vous voulez, dès maintenant. Vous allez avoir un mot de passe. Et le mercredi à 11h30, vous pouvez vous connecter sur cette plateforme. Et là, vous allez avoir une discussion sur 5 thèmes que nous allons proposer. Ça dure 1 heure. Et ensuite, vous avez les résultats. Ça, c'est le mardi, le jeudi à 11h30. Ça dure 1 heure. Et l'après-midi, nous revenons sur les ateliers pour continuer la réflexion. Et à 15h30, les jeunes hispaniques vont participer à la même chose, ils vont faire pareil, une la même chose, on va faire crowdsourcing, consultation citoyenne, mais pour tout ce qui est de langue espagnole. Le matin, c'est pour les Français, et après, c'est pour les Espagnols. Ça, c'est le jeudi. Et on va terminer le vendredi matin, comme on l'a dit Didier tout à l'heure, à la COP25, où les gamins, les jeunes, iront rendre les propositions à la présidente. Voilà. Ah, tu as retrouvé. À la présidente donc de la conférence. Et dans cette zone également bleue et vert, nous allons présenter les projets parce que chaque pays, chaque délégation qui vient à la COP vient avec son projet. Donc c'est le vendredi à midi, l'après-midi, que ça va terminer comme ça. Mais ça finit pas comme ça. Après, nous, on continue. On revient dans nos... Les jeunes reviennent dans leur pays, vont mettre en place le programme, et après, nous allons le suivre les choses qu'ils font. Et après, on continue. Ça fait chaque pays travaille en fonction des engagements qu'il a pris ici. Tout simplement pour finir, et le mercredi, nous sommes invités avec l'Espace Humain de France au pavillon français. Ça, c'est très important. Parce que la France a un pavillon et les places sont très chères. Et donc, on a la chance d'être invité à une conférence. Donc, c'est nous qui proposons la conférence, à peu près une heure, où nous allons dialoguer avec les jeunes également, toujours les jeunes, les scientifiques, l'Espace Humain de France, sur la question de la diffusion scientifique, le rapport entre la manière comment aussi les jeunes peuvent s'emparer de toute cette démarche. C'est le moment là où on va, Didier l'a évoqué tout à l'heure, c'est le moment où nous allons montrer, disons, le processus qu'on va mettre en place pour les 5 prochaines années. Donc c'est un processus d'accompagnement, de suivi scientifique, puisqu'on va élaborer un protocole d'accompagnement. Et cette expérience, qui est une expérience inédite dans ce contexte, dans ce type de recherche, dans ce type de projet, nous souhaiterons justement arriver au bout des 5 ans et montrer quel est l'impact ou les impacts de ces projets au niveau des territoires avec, disons, l'apport très important des générations futures. Voilà. Merci beaucoup.
Saluer l'arrivée de Madame le proviseur de Camille Guérin, Christine Furel, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation du choix des lycéennes, en l'occurrence, ce sont 3 filles. Donc merci à vous. Question ?
Je voulais savoir c'était quoi le nom de la plateforme dont vous avez parlé pour jeudi prochain ?
Par rapport à ça, ce que je vous propose, c'est que sur la page Facebook de l'Espace Mendès France, on va vous l'indiquer, ce sera plus simple.
En français. Okay.
Ce sera plus simple. Madame la proviseure, il faudra nous dire laquelle des 3 va se prêter au jeu d'une conférence dans le pavillon français, qui est peut-être éventuellement un exercice un peu intimidant. Donc voilà. Donc,
je crois que j'ai un nom.
Hein, donc, d'accord.
Non, je vous en prie. Hein, je vous ai apporté. Ben, moi, c'est moi qui vous remercie d'avoir permis à ces 3 jeunes filles éco-déléguées. Alors, il faut savoir qu'elles ont été donc choisies parce qu'elles sont éco-déléguées. Dans les établissements scolaires, depuis l'année dernière, il y a des délégués de classe, ça on connaît, et il y a des éco-délégués en niveau de seconde, première, terminale. Volontairement, on a choisi des élèves de seconde pour qu'elles puissent porter le projet un peu plus longtemps, parce que des élèves de terminale partaient en même temps. Donc ce sont des élèves de seconde, elles sont éco-déléguées. On leur a demandé aux élèves qui étaient volontaires si elles voulaient bien nous soumettre un petit projet. Et on a fait un mini-jury avec M. Moreau, un gestionnaire de l'établissement et moi-même. Et je remercie quand même l'Espace Mendès France parce qu'au départ, on devait envoyer que 2 élèves et on avait 3 dossiers. Et en réalité, pour qu'il n'y ait pas une seule qui reste. Voilà, grâce à l'espace Mendes France, ils vont partir à 3.
On remerciera le conseil régional.
J'ai remercié le conseil régional à mon conseil d'administration. Donc Monsieur Tirant qui était présent, donc je l'ai remercié pour cette action généreuse. Il faut savoir que parmi ces 3 élèves, 2 sont des internes. Qui sont, alors je ne suis pas d'ici, mais je ne crois pas prononcer, c'est Jardre, ça existe, voilà. Et que monsieur le maire de Jardre est très ému de voir parmi ses citoyennes, ses jeunes citoyennes, et donc ils vont faire aussi un travail, je crois, sur la ville de Jardre à leur retour. Donc ça commence à essaimer, et on a, je pense, la jeune fille qui est Pauline, hein, qui sera certainement la jeune fille, d'ailleurs pratiquement aussi désignée par ses camarades, parce que les 2 autres sont un peu plus timides, et d'accord. Pauline l'est moins. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.
Merci. Non, c'est un beau témoignage, merci. Enfin, en même temps, avec Camille Guérin, ça faisait déjà de nombreux mois qu'on était en discussion et en dialogue. Dialogue et discussion qu'on avait avec d'autres lycées, mais c'était un petit peu différent, on va dire. Voilà. Donc là, on a été vite et bien, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres compléments d'informations pour tout ça? Voilà, donc vous suivrez nos aventures en direct grâce au travail de Catherine ici présente et le travail de la plateforme numérique de l'espace Mendes France. Donc, on attend aussi vos retours, puisque comme l'a dit Alfredo, lors de la session du jeudi, il y a eu une heure de questions-réponses venant du monde entier. Et c'est là où on attend qu'on ait du réseau qui fonctionne.
À peu près 1000 jeunes se connectent. Hein. Donc c'est quand même important. Et ça tient.
Donc voilà. Merci d'avoir été présent et présente à cette présentation. Il y aura des suites, bien entendu, dont on parlera. Et avec monsieur le maire de Jardre, qu'on connaît par ailleurs, effectivement, il y a des choses à faire, parce que je pense que c'est aussi par là que ça se passe. Puis on a la chance d'avoir deux éminents représentants de madame la rectrice du rectorat, et je suis sûr que tout ça sera suivi d'effet.
J'allais oublier, et je m'en excuse. On a évidemment contact avec le rectorat qui travaille aussi avec monsieur Mérien, qui est l'IPR, qui est en charge du développement et de la citoyenneté dans l'académie. Et nos élèves, dès leur retour, le 17 décembre, participeront à l'engagement, la journée de l'engagement auprès de la rectrice, le 17 décembre, et elles apporteront le témoignage au sein du rectorat pour les jeunes de l'ensemble des lycées du rectorat. Voilà, donc il va y avoir aussi auprès du rectorat une redescente d'informations.